France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. J'ai croisé de nombreuses femmes depuis ce matin. Hélas, une sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de son existence. Avec le vieillissement de la population, le nombre de cancers féminins augmente. Le cancer du sein reste le plus fréquent avec environ 60 000 nouveaux cas chaque année, l'équivalent de la ville de Troyes. C'est également le cancer le plus mortel, mais détecté à un stade précoce, près de 9 femmes sur 10 guérissent à l'horizon de 5 ans. Nous verrons quels sont les facteurs de risque, comment le dépister, quels sont les traitements et leurs conséquences, comment surmonter le choc de l'annonce, quel accompagnement psychologique tout au long de cette épreuve, quelle place pour la famille, les conjoints, les amis. Nous attendons toutes vos questions. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Charlotte Pascal.
Bonjour Ali.
Je me permets de donner votre âge car c'est important. Vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes en rémission d'un cancer du sein. Vous publiez chez Flammarion « Ma meilleure amie a un cancer du sein ». C'est un petit guide pratique pour celles et ceux qui accompagnent leur amie dans le combat contre la maladie.
Tout à fait. En fait, j'ai voulu écrire ce livre pour tous les accompagnants. Parce que on les néglige souvent, ou en tout cas, ils n'ont pas leur place bien définie. Donc, et souvent, ils sont démunis, ne savent pas quoi faire. Donc, un petit guide pour leur expliquer ce qui va nous arriver et surtout ce qu'il faut faire. Et ne pas faire.
Très bien fait ce guide. Bonjour Sophie Hoffmann.
Bonjour Ali.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous
Merci.
Êtes journaliste, vous collaborez depuis plusieurs années à France Inter,
à
dans la bande originale notamment. Vous êtes l'autrice d'une formidable podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein. Je précise que boob, ça veut dire sein
Tout à
en
fait.
Anglais. En quelques mots, parce qu'on va revenir sur votre histoire,
oui,
l'objet
oui.
de ce podcast.
L'idée, c'est de raconter la réalité d'un parcours contre le cancer du sein. Et en fait, tout le long de mon parcours, j'ai enregistré des notes vocales quasiment tous les jours pour expliquer ce que je vivais et ce qui allait se passer. Et donc là, je suis en train de réécouter pour faire de tout ça un podcast.
Bonjour docteur Anne-Vincent Salomon.
Bonjour Ali.
Vous êtes spécialiste en anatomie et cytologie pathologique à l'Institut Curie. Racontez-nous votre spécialité en quelques mots.
En deux mots. En fait, pour savoir qu'il y a bien une tumeur maligne, il faut aller prendre un petit bout de cette tumeur maligne, c'est généralement, enfin de cette tumeur, cette boule qu'on a dans le sein. Et les médecins qui analysent le tissu malade prélevés dans le sein, ce sont les anatomopathologistes. Donc tant qu'on n'a pas l'analyse en pathologie, on ne sait pas de quelle nature est cette boule dans le sein.
Alors le cancer du sein touche environ une femme sur huit, c'est ça ?
À peu près, oui.
Il touche de plus en plus de femmes, pourquoi ?
Alors, c'est probablement parce que la population vieillit, tout d'abord, tout simplement. Et puis ensuite, parce que certains facteurs de risque, comme consommer trop d'alcool ou le surpoids, pourraient être des facteurs qui ont favorisé l'augmentation. Mais surtout aussi parce que on dépiste mieux. Donc, on détecte plus de tumeurs, puisque les femmes se soumettent au dépistage.
Bonjour Alexandra Delaune.
Bonjour.
Vous avez 41 ans, je me permets de donner votre âge également. Vous habitez Poitiers et vous suivez en ce moment une hormonothérapie, on y reviendra tout à l'heure, pour soigner un cancer du sein que vous avez découvert lors du confinement de novembre dernier, c'est ça ?
Exactement, j'ai découvert, grâce à l'autopalpation, mon cancer en novembre dernier et s'en est suivi toute la bataille.
Racontez-nous cette autopalpation, c'est très important, Alexandra Delaune. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour où vous sentez une boule dans votre sein ?
Écoutez, c'est comme beaucoup de femmes, c'est sous la douche, c'est tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ? On sait pas trop, on sent quelque chose, c'est normal, c'est pas normal, il faut que je consulte.
Vous, Charlotte Pascal, vous découvrez votre cancer du sein à l'âge de 38 ans, c'était en mars 2019, et tout commence sous la douche.
Pareil, sous la douche, j'ai l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain, et celle que je touchais, parce que j'avais un cancer trifocal, donc j'avais 3 tumeurs, celle que je touchais c'était la plus grosse, et elle avait à peu près la taille d'une balle de golf. Donc, du jour au lendemain, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, donc, On se pose des questions et quand on est femme, en fait, on a toujours peur du cancer du sein.
Et vous vous dites même, Charlotte Pascal, c'est beaucoup trop gros pour être un cancer.
Oui, parce que pour moi, un cancer du sein agressif quand on était jeune, ça avait la taille d'une bille, c'est ce que ma gynéco m'avait dit, très dur, tu peux pas passer à côté. Donc là, je sentais ce truc énorme, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être ça, c'est trop gros.
Et vous, Alexandra Delaune ?
Ben, c'est exactement la même chose. Non, ça peut pas être. Je suis jeune, j'ai pas d'antécédents familiaux, j'ai 40 ans, je bois pas, je fume pas. Il y a aucune raison, mais j'ai un doute. J'ai un doute et je me dis quand même, on va peut-être aller voir quelqu'un.
Et vous parvenez à consulter une gynécologue au bout de 8 mois d'attente, hein, c'est ça.
Et oui, c'est ça, c'est une question des petits deals. C'est pas simple d'avoir des rendez-vous. Et puis, c'est pas simple d'avoir un médecin qui vous prend comme ça rapidement. Ça fonctionne pas dans les petites villes.
Et vous, Charlotte Pascal, comment ça se passe ?
Moi, j'ai la chance d'être à Paris et je téléphone tout de suite à ma gynéco. Elle me dit, vous partez en vacances 2 semaines, il n'y a pas de souci, ça peut attendre. Si, franchement, vous êtes un peu anxieuse, je vous envoie une ordonnance pour faire une échographie, même pas une mammographie, une échographie, et comme ça, vous le faites. Et je ne l'ai pas fait avant de partir en vacances. Mais j'ai attendu 2 semaines. Mais entre 2 semaines et 8 mois, il y a quand même un gap énorme.
Vous, Sophie Hoffmann, vous apprenez que vous êtes atteinte d'un cancer du sein le 14 septembre 2020, à l'âge de 34 ans.
Oui, c'est ça. Alors moi, je suis porteuse de la mutation génétique BRCA1, qui est la même qu'Angelina Jolie, qu'on avait parlé il y a quelques années, donc qui prédispose au cancer du sein et de l'ovaire. Ma mère et ses 3 sœurs ont été touchées par un cancer du sein ou de l'ovaire.
Vos tantes Claude, Micheline, Monique,
oui, et Daniel.
Et Daniel ont toutes développé un cancer du sein
ou de l'ovaire jeune. Donc ma tante Claude, la première, a 39 ans, cancer de l'ovaire, donc c'est très 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 jeune.
Elle décède à l'âge de 49 ans. Hein.
Oui, c'est ça, en 96. Et donc ma mère, quand elle a déclaré son cancer de l'ovaire à 53 ans en 2009, on l'a fait une recherche génétique de son côté. Et donc nous, avec ma sœur et mon frère, on a été aussi amenés à chercher cette mutation. Et il se trouve que moi, je suis porteuse de la mutation. Je suis suivie par l'Institut Curie depuis 5 ans, tous les ans, avec une IRM, mammographie, échographie. Et donc l'année dernière, j'ai fait mon IRM, les mains dans les poches. Et on m'a dit, non, il y a un petit truc, il y a une petite anomalie. Et donc, on a fait une biopsie. Et c'est là que ça a révélé ce cancer du sein.
Votre chance, Sophie Hoffmann, c'est de connaître cette information cruciale, c'est-à-dire d'être atteint de cette mutation génétique BRCA1. C'est très important, ça.
Ouais, je pense qu'en fait, plus on est informé, plus on est armé. Il faut vraiment savoir, il faut y aller. Enfin, dès qu'il y a quelque chose, il faut aller consulter très rapidement, parce que c'est vraiment une course contre la montre. Enfin, Curie, c'est prenons le cancer de vitesse, et je pense que c'est vraiment ça ce qui nous sauve.
Docteur Anne-Vincent Salomon, sur le facteur génétique de ces cancers féminins.
Alors, effectivement, c'est 5 à 10%, ou plutôt plus proche de 10% des cancers qui surviennent dans un contexte héréditaire. Et on a la présence d'une mutation BRCA1 ou du gène BRCA2 dans 25% des cancers survenant dans un contexte héréditaire. Donc, c'est vrai que là, il faut garder aussi en tête que les cancers surviennent en moyenne à l'âge de 63 ans. Mmh. C'est pour ça que je commençais en disant, oui, la population vieillit, donc c'est aussi pour ça que les cancers sont plus fréquents. Mais c'est vrai qu'il y a 5000 femmes par an qui ont des cancers avant l'âge de 45 ans. Donc, c'est de ce dont on parle là, avec vous trois.
Ouais. Charlotte Pascal, qu'est-ce qu'on se dit ? Parce que vous n'étiez pas prédisposée génétiquement au cancer du sein.
Non, moi c'est la faute à pas de chance. Ouais. Donc je ne sais pas quel est le pourcentage, mais finalement c'est un peu énervant de ne pas avoir de raison. De se dire, bon, c'est génétique, c'est hormonal, il y a une mutation. Alors on nous dit... c'est environnemental. Alors là, tu te poses des questions parce que tu cherches un coupable. Tu te dis, j'ai utilisé tel déo, est-ce que j'ai acheté ça les biberons en plastique. Non. Donc à un moment donné, il y a une résilience et on se dit, c'est la faute à pas de chance.
C'est votre cas également, Alexandra Delaune, hein ?
Ah, c'est exactement ça. Je mange bio, pas de produits industriels à la maison, je fais même les goûter des enfants.
Vous faites du sport.
Je fais du sport.
Vous fumez pas?
Je fume pas, je bois pas. Enfin, voilà, j'ai une hygiène de vie qui est, somme toute, bonne hygiène de vie. Et pourtant, j'ai 40 ans. Et pourtant, j'ai un cancer du sein, sans prédisposition génétique ni d'antécédents familiaux. Bon, pourquoi moi, en fait?
Ouais. Docteur Anne-Vincent Salomon, sur ce facteur, c'est la faute à pas de chance.
Ouais. Alors, ça, c'est pour ça qu'il faut continuer les recherches. Enfin, je veux dire, là, la recherche en épidémiologie, elle est essentielle. Et en fait, elles sont peu valorisées, ces recherches, parce que c'est très lent. Alors, on espère qu'avec probablement l'accès à des grandes bases de données bien faites, on pourra trouver des causes. Là, avec l'association Ruban Rose, cette année, on a remis 2 prix à des chercheurs qui travaillent sur la présence de métaux lourds, de pesticides, le rôle entre ces facteurs environnementaux, mais un peu plus précis, et les cancers du sein. Mais la route est longue entre le moment où on suspecte qu'il y a possiblement une cause, et de démontrer réellement le facteur causal de la maladie. Donc, c'est clair que, pour l'instant, la majorité des cancers du sein surviennent dans ce contexte. Ouais. Pourquoi moi, quoi?
J'ai mon oncogénéticienne, parce que on m'a orientée vers quelqu'un, qui m'a dit je reçois pas tout le monde, si je devais faire des tests à toutes les femmes. Donc, je me sentais un peu privilégiée. Et elle m'a dit, non mais revenez dans 5 ans. Peut-être qu'on aura avancé, en fait, et ça serait intéressant justement de voir l'avancée pour les recherches.
Alors, c'est vrai qu'il y a les mutations dont on a parlé, BRCA1, BRCA2, puis après, on essaye là de cerner un ensemble de petites variations qui sont sur l'ADN, qu'on appelle des polymorphismes. Bon, c'est des petites... c'est pas vraiment des fautes d'orthographe, mais c'est des variations d'écriture de nos gènes qui pourraient, ensemble, favoriser le développement de ces tumeurs. Mais là, on en est un peu au balbutiement. Néanmoins, il y a un superbe essai de Suzette de la Loge et porté par Unicancer, MyPeps, où on essaye justement, avec ces empreintes génétiques qui sont pas des mutations, c'est un ensemble de petites variations, de proposer un suivi différent aux femmes en fonction de oui ou non elles ont cette empreinte génétique qui se favoriserait. Et donc, elles font un suivi un peu différent avec des mammographies. Donc, on essaye vraiment par pas mal de moyens différents. Mais bon, la recherche, ça prend du temps.
Alexandra Delaune, votre gynécologue vous propose une mammographie en urgence, puis une biopsie le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe par la suite?
Oula. Par la suite, c'est le tourbillon. Vous êtes plus ni maître de votre corps, ni maître de votre temps. On prend tout en charge pour vous. Tout va très très vite. Vraiment très vite. Vous découvrez des mots que vous ne connaissiez pas. Et puis...
scintigraphie, PET scan, voilà. Chambre implantable.
Voilà, tout ça. Tout ça à 40 ans, quand on n'a pas vécu ou quand on n'a pas dans son entourage de personnes atteintes de quelconque cancer, c'est vraiment... un tsunami. Et pourtant, on est porté, et puis ça va tellement vite qu'on se rend pas compte.
Charlotte Pascal.
Oui, c'est exactement ça. L'annonce, le déroulement des traitements, c'est exactement ça, c'est un tsunami.
Vous parlez de tsunami. Comment se passe l'annonce d'un point de vue psychologique, Sophie Hoffmann? Comment ça s'est passé pour vous?
Au niveau psychologique, moi, on m'a très vite orientée vers un psychiatre de l'Institut Curie. Après, moi, j'étais déjà suivie par une psychologue, donc ça m'a énormément aidée, je pense.
On se prépare quand dans sa famille, les cancers féminins existent, ou alors, de toute façon, c'est singulier, ce qui m'arrive, et puis on n'est jamais préparé.
Honnêtement, j'étais à 1000 lieues de penser ça. Nous, on était dans un parcours de PMA avec mon conjoint. Donc,
Damien.
Oui, Damien.
Je le cite parce qu'il vous accompagne vraiment dans cette période-là.
Complètement, oui. Non, mais c'était... Donc je dis, c'est un bébé que je voulais, pas un cancer. et donc j'étais vraiment, je me disais non, c'est pas possible, ça va pas m'arriver à moi, quoi.
Charlotte Pascal, sur le psychologiquement, comment vous avez accepté ou pas ce qui vous arrivait?
Moi, je pensais qu'on parlait de quelqu'un d'autre. On est en face du médecin qui vous dit bon, alors voilà, on a les résultats des analyses. Vous avez ça. Il va se passer ça. Votre protocole est très bien établi. Il n'y a aucun souci. Vous allez, il y en a pour. Et alors moi, je m'étais préparée à l'annonce. Donc du coup, je m'étais dit bon, ok, tu vas peut-être avoir de la radiothérapie. C'est 5 semaines. si on doit faire une chirurgie, parce qu'on m'avait quand même parlé de chirurgie à cause de la grosseur de la tumeur, je m'étais dit, bon, on verra peut-être rien, je rentre, je ressors avec des seins, on va mettre une prothèse, j'aurai des nouveaux seins pour l'été, c'est parfait. Et là, quand elle m'annonce qu'il y aura 6 mois de chimiothérapie, je suis tombée de ma chaise. Là, je me suis dit, attendez, de la quoi ? Non, c'est pas possible. Je vais devenir chauve. Enfin, voilà. En fait, c'est toutes les petites informations qu'on connaît, mais on connaît tellement peu sur le sujet que on pense qu'on va mourir, en fait, tout simplement.
Docteur Vincent Salomon.
Il y a quelque chose qu'il faut certainement dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas un cancer du sein, mais vraiment des cancers du sein. Et il y en a. Donc là, on est. Soit triple négatif, soit HER2, soit récepteur d'œstrogène positif. Voilà. Alors en fait, ça veut dire, en fait, chaque tumeur a des particularités biologiques, et nous, on les classe avec ce qui les distingue les unes par rapport aux autres, ces différentes classes. Et HER2, c'est quand même fantastique, en fait, d'avoir cette cible. C'est probablement une des causes du développement de la tumeur. Qu'est-ce que c'est HER2? C'est trop de la protéine HER2 qui est en lien avec une anomalie qui s'est passée non pas dans l'ADN constitutif, mais dans la tumeur. Il y a eu un espèce de bug qui fait que HER2 est en un grand nombre de copies, trop nombreuses copies du gène HER2. Et du coup, il y a beaucoup de protéines HER2 à la surface des cellules tumorales. Et c'est formidable. Pourquoi ? Parce qu'on peut le cibler avec un traitement ciblé, l'herceptine, qui marche extraordinairement bien. Donc on peut guérir avec cette grâce à cette anomalie, finalement.
Et ça, on l'a dit dès le début.
Voilà. Et c'est pour ça que vous avez de la chimiothérapie. Et puis, les cancers triple négatifs, on leur donne aussi de la chimiothérapie. Mais pas à tous. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Bonjour, docteur Ophélie Soulier. Bienvenue.
Oui. Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'Institut Marie Curie. Oui. Comment accompagnez-vous les femmes qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein ? Quel est votre travail dans ce moment-là, docteur Soulier ?
Notre travail en tant que psychiatre et psychologue dans les unités d'oncologie, c'est bien sûr de pouvoir aider à, enfin d'abord accueillir évidemment la détresse éventuelle de ces femmes confrontées à la maladie, et puis de les aider à élaborer, mettre un peu en récit ce qui paraît incompréhensible, qui relève de l'ordre du non-sens, c'est ce que disaient vos témoins sur le plateau, et de les aider à verbaliser ce qui se passe pour faire face au mieux à ce bouleversement que représente l'annonce du cancer.
Vous les aidez également à surmonter une certaine forme de culpabilité qui peut exister, surtout quand on a l'impression d'avoir tout bien fait, voilà.
Oui, bien sûr. En tout cas, dans l'intimité des entretiens, il n'y a aucun sujet tabou. Donc, bien sûr, on accueille tout ce qui vient et tout ce qu'elles ont envie de nommer. Et on les aide, justement, à ventiler certaines émotions quand les émotions sont très fortes, ou alors à tenter d'aider à mettre du sens sur des choses qui n'en ont pas. Et on aide, bien sûr, à mettre la culpabilité un peu... en sourdine, entre guillemets. En tout cas, on questionne ce que ça veut dire, de pourquoi on se sentirait coupable, à la question pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi à mon âge, puisque j'ai vu que vous aviez beaucoup de patientes jeunes aujourd'hui. Donc,
Docteur Vincent Salomon.
Non, mais c'est ça. Il faut vraiment enlever de la tête des femmes qu'il y a une culpabilité. Enfin, c'est pas de leur faute. C'est vraiment pas de leur faute. Et si on essaye de trouver des causes, c'est justement des causes. Ce mot environnemental qui est un peu fourre-tout, mais on creuse. On essaye de trouver, quoi. Non, surtout, faut pas se sentir coupable.
Sophie Hoffmann.
Ouais, moi j'ai remarqué que, en tout cas, moi j'ai essayé de creuser un petit peu parce que oui, j'ai cette mutation, mais bon, en général, quand on l'a, c'est vrai que. On risque très fort de développer un cancer, et j'ai remarqué que les médecins à Curie ne cherchaient pas la cause. Enfin, et j'ai trouvé ça marrant, en fait, parce que, enfin, en tant que relation patient, c'est bon, il est là, en fait, votre cancer. Là, il est plus là parce qu'il a été opéré, il va être traité, et on est dans l'action, en fait. Et je sais que, voilà, ma chirurgienne m'avait dit, réfléchissez pas trop parce que après, vous allez réfléchir de travers. Et ça m'est resté, en fait, dans mon esprit. Il faut pas, oui, on a besoin de trouver une cause, mais il faut aussi accepter que, il y en a pas et on est dans l'action et...
Mais en prévention, il est important de connaître les facteurs de risque, docteur Vincent Salomon. Ouais. 3 cancers du sein sur 4 se manifestent chez la femme de 50 ans et plus. Et puis le tabac, l'alcool, la pollution peut-être, la sédentarité, peuvent être des facteurs de risque du cancer du sein.
Alors le tabac, jusqu'à preuve du contraire, non.
Le tabac, non.
Non, mais alors le tabac, c'est il ne faut pas fumer. Oui.
C'est clair, il faut pas Merci fumer. Beaucoup. Parce que on n'arrête pas de le marteler dans cette émission.
Non, mais c'est vrai. Donc oui, de façon plus récente, on a compris que une consommation d'alcool au-delà de 6 à 7 verres par semaine, c'était trop. Mm. Bon. Voilà, on est français, on adore le bon vin. Mmh. Alors après, entre avoir une vie triste, ascétique, où on fait tout bien et donc on vit plus en fait, parce que qu'est-ce que c'est la vie ? Bon.
Un examen, c'est sûr, ça angoisse. Pourtant, ce que permet le diagnostic d'un cancer du sein à un stade précoce avant tout symptôme, c'est d'être vivante 5 ans après pour 99 femmes sur 100. Savoir, c'est pouvoir agir.
Extrait d'une campagne de dépistage de l'Institut National du Cancer. Alexandra Delaune, je rappelle que vous avez 41 ans, vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Vous suivez une hormonothérapie en ce moment, c'est ça ?
Oui, et comme je suis HER2 positive, je suis toujours en thérapie ciblée, avec encore pendant presque 6 mois, un traitement d'Herceptin toutes les 3 semaines.
Et vous, Charlotte Pascal ?
En fait, moi, ils ne l'ont pas enlevé tout de suite. Moi, j'ai eu la chimiothérapie en premier et de l'opération, la mastectomie après. Mmh. En fait, ils voulaient voir avec les traitements déjà qu'elle diminue, parce que je crois que c'est plus difficile à opérer si c'est gros. Et pour voir, en fait, comme les ganglions étaient déjà atteints, ça se baladait dans le corps, avec le TEP scan aussi, voir si toutes les petites molécules, enfin les cancéreuses qui se baladaient, n'étaient pas ancrées quelque part, quoi.
En fait, de faire la chimiothérapie avant la chirurgie, c'est ce qui est recommandé pour les formes des cancers du sein HER2 positifs et les triples négatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de faire réduire complètement la tumeur et de voir la réponse des cellules tumorales aux chimiothérapies que l'on a proposées. Et ça permet, si après la chimiothérapie, il n'y a plus de cellules tumorales, alors on est quasi guéri. Et on le sait tout de suite, on n'attend pas 5 ans pour dire, vous êtes tiré d'affaire. Donc en fait, c'est une façon plus rusée de tester les traitements, mais c'est pas un essai. Là, on sait maintenant que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour les cancers qui expriment les récepteurs aux œstrogènes, c'est pas la même approche. On va d'abord enlever la chirurgie. La chirurgie, c'est un magnifique traitement des cancers, en fait. On enlève la partie du corps malade et après, il y a plus de cancer. Et tout l'enjeu de la chimiothérapie, c'est d'aller détruire d'éventuelles cellules qui seraient parties de la tumeur primaire, celle qui est dans le sein, pour aller se cacher dans les os, dans la moelle osseuse. On pense surtout que là, il y a une espèce de niche qui fait qu'il y a des cellules qui peuvent rester là. Et c'est celle-là qu'on cherche à détruire aussi avec la chimiothérapie.
Mais est-ce que la tumeur aurait continué à grossir ?
Alors, les tumeurs HER2 donnent l'ordre aux cellules de se diviser. D'accord. Donc, elles se multiplient. Donc, ça aurait grossi.
Mmh. Ouais. Et vous, Charlotte Pascal, quel est votre parcours de sein, là, en ce moment ?
Là, je suis en reconstruction. Mmh. Alors, la reconstruction, ce qu'il faut savoir, c'est... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... En gros, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se font reconstruire le sein, parce qu'on a déjà vécu un tunnel de l'enfer, et la reconstruction, c'est un autre chemin de croix. Donc là, par exemple, je vais faire ma 4e intervention pour la reconstruction. Voilà.
Sophie Hoffmann, je rappelle que vous êtes l'autrice du podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein. Vous avez été opérée, c'est ça ?
Oui, on a commencé par une chirurgie, donc une mastectomie. Bon, quand on me l'a annoncé, je me suis dit non, mais c'est trop là, enfin, je peux pas. Donc on s'est dit, bon, on pouvait faire la tumorectomie, mais en fait c'était trop risqué parce que plus il y a de glandes mammaires, plus il y a de risques. Donc on a commencé par ça, après j'ai fait 16 séances de chimiothérapie et 25 séances de radiothérapie.
Voilà, parce que j'ai oublié de parler de la radiothérapie, qui est le complément indispensable. Quand on n'enlève pas toute le sein, on enlève juste la tumeur et du tissu du sein normal, et ensuite on irradie le sein pour au cas où d'autres petites tumeurs indétectables seraient présentes et pour diminuer le risque de rechute.
Et puis la radiothérapie, c'est fantastique parce que on arrive, on se pose, ça dure 5 minutes, il y a une énorme machine qui tourne autour de nous, on a l'impression d'être en 2050 et on ressort et c'est fini.
Écoutons un extrait de votre podcast, Sophie Hoffmann.
Alors à 21h10, bah ça va, franchement, j'ai eu le passage des infirmières qui vérifient tout le temps ma tension, qui sont vraiment mais adorables. En fait, on a l'impression d'être entouré d'une cellule de coton. La chirurgienne est venue à contrôler et je lui dis, mais en fait, le cathéter, il est hyper bas. Et elle me dit, bah oui, comme ça, on le voit pas. Et là, j'ai fait, mais c'est génial. Et elle m'a dit, bah c'est normal. Après, l'aspect du sein, c'est un petit peu cabossé, mais on m'avait prévenu et on m'avait surtout bien dit que c'était pas du tout le résultat définitif. Mais en fait, je me répétais plein de choses positives, surtout en salle de réveil. T'es au bon endroit. J'observais comme ça le passage des infirmiers, comment ils prenaient soin des autres et tout. Et donc je me disais, c'est bien, t'es bien prise en charge, ils savent ce qu'ils font. Ça tournait un petit peu en boucle dans ma tête. Donc voilà, ce soir on peut dire merci. Et puis je me dis bravo aussi parce que je l'ai fait. Ça fait partie de la vie, d'avoir des choses comme ça qui se passent. Je sais qu'il y aura des moments difficiles, mais je ferai en sorte de les accueillir tout simplement.
Extrait de My Boob Story de Sophie Hoffman.
Oui, bah oui, j'essaye de, voilà, de raconter ce qui se passe au moment où ça se passe. Et je suis vraiment aussi très reconnaissante de l'encadrement dont j'ai pu bénéficier à l'Institut Curie. Et voilà, plus globalement, enfin, ça, voilà, c'est peut-être un petit peu naïf, mais on a la chance d'être dans un pays où on peut se faire suivre médicalement, on peut être soigné. Moi, je me dis, les médecins ne me connaissent pas et ils me sauvent la vie, en fait. Donc, voilà, c'est.
Charlotte, il faut remercier ça. Charlotte Pascal, je rappelle que vous avez écrit « Ma meilleure amie, un cancer du sein » sur cette épreuve de la chirurgie, cette expérience forte.
Moi, je m'étais bien préparée à l'avance. Donc, mon chirurgien m'avait conseillé d'aller voir des chirurgiens esthétiques pour l'après. Comme ça, j'étais prête à l'étape suivante. C'est-à-dire que je me focalisais pas sur... Parce que ça faisait 6 mois quand même que je pensais à la mastectomie, hein, forcément on y pense tous les jours. J'étais allée sur Internet, j'avais vu des photos, ce qu'il faut pas faire, mais en fait ce que je conseille de faire. J'étais prête. Après, ce que je voudrais rajouter pour les personnes qui nous écoutent et qui sont atteintes d'un cancer ou pas, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes traitements pas que à Paris, parce que là on parle, c'est vrai, de deux grands hôpitaux parisiens, mais moi j'ai un peu vadrouillé parce que mon traitement se passait pendant les vacances, et je voulais pas passer être bloquée à Paris pour mes vacances avec mes enfants, et du coup j'ai été à Avignon, à Toulon, en Haute-Savoie, j'ai fait pas mal d'hôpitaux, et on est très très bien soignés, et le personnel soignant est vraiment super partout.
Et on est très bien soigné à Poitiers, Alexandra Delaune.
On est hyper bien soigné à Poitiers avec énormément de bienveillance, avec énormément de douceur au pôle régional de cancérologie où on a des femmes qui sont admirables et qui ne s'arrêtent pas du tout. Voilà, qui n'ont même pas le temps de boire ou d'aller faire pipi parce qu'elles s'occupent des patients et elles prennent le temps de s'occuper des patients et des patientes.
Baptiste Beaulieu.
Je suis d'accord, et ce système de soins, il faut le protéger. Je vous donne un petit exemple, parce que moi, en tant que médecin généraliste, je constate qu'il y a une dégradation de l'hôpital public et ça se traduit comment ? Concrètement, ça se traduit par une femme qui vient me voir avec une tuméfaction au niveau du sein. Et entre le moment où elle fait l'écho, la mammographie, où on fait la biopsie et où on l'appelle, parce que ça se fait seulement en consultation, en présentiel, on n'annonce pas quelque chose par téléphone, il peut se passer plusieurs semaines, et c'est plusieurs semaines terribles pour les patientes qui se disent qu'est-ce qu'on va m'annoncer, qu'est-ce qu'on va me dire. Et c'est vrai que plus on casse l'hôpital public, plus ces délais sont allongés, plus les délais de consultation sont allongés, et ça se traduit concrètement par des semaines très éprouvantes pour les patientes. Quoi.
Tiens, quel est votre rôle, justement, docteur Ophélie Soulier, d'accompagnement psychologique des patientes après l'annonce, tout au long du parcours thérapeutique ?
En l'occurrence, vous avez beaucoup parlé du moment de l'annonce, dont on a bien compris que ça pouvait être vraiment vécu comme une crise existentielle pour la personne et ses proches. Il est clair que l'espace psychologique que l'on propose à l'Institut Curie et ailleurs sont à vocation à être utile à tout moment du parcours de soins, et on sait bien que ça ne se réduit pas juste à l'annonce diagnostique, mais ça peut l'angoisse en l'occurrence peut revenir à d'autres moments, notamment à l'annonce de la récidive par exemple, ou lorsqu'il y a une résistance au traitement, voire même à l'arrêt des traitements spécifiques. Donc il y a plusieurs moments comme ça charnières. On sait aussi que notre accompagnement peut avoir une grande utilité en post-traitement, puisque les patientes qui ont témoigné là racontent beaucoup beaucoup aussi à quel point on prend conscience de ce qui se passe une fois le temps médical accompli, donc un peu en a posteriori. Et on sait que la période de surveillance ou de rémission est une période aussi charnière sur le plan psychologique. Voilà, il y a plusieurs moments comme ça où on peut être utile et aider les patientes dans la manière de faire face.
Docteur Anne-Vincent Salomon.
Oui, je crois que ce que Baptiste Beaulieu vient de dire concernant l'hôpital public, c'est fondamental. Il faut que le statut des infirmières et des infirmiers soit revalorisé. Enfin, c'est une évidence. Il faut former aussi, attirer de plus en plus de jeunes à se former au métier d'infirmier. On est sans infirmiers. La médecine, c'est un job d'équipe. On se passe le relais. Les médecins sans les infirmiers, sans les aides-soignants, sans les manip radio, sans les techniciens de laboratoire, on n'est rien. Donc, il faut que vraiment, ça, il y ait des mesures fortes qui soient prises. C'est dramatique en ce moment, le nombre de patients qu'on doit prendre en charge et le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment un cri d'alarme que l'on pousse depuis de nombreux mois.
Quel est le rôle de l'entourage, de la famille, des amis, du conjoint Charlotte Pascal dans cette période difficile ?
Il est primordial. Moi, quand on m'a annoncé, donc on repart de l'annonce, on me parle de chimio, de radiothérapie, et puis tout de suite après, on me dit « Et sinon, vous avez de la famille, vous avez des amis ?» Alors là, je me dis « Mais de quoi elle me parle ?» Oui, j'ai des amis, c'est ça, bon, ok. Ah, c'est très très important, hein, l'entourage. J'étais là, ok. Et je me rendais pas compte à quel point. D'où mon livre, pour dire merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont entourée, parce que c'est effectivement primordial. Quand on est seul, par exemple, dans la salle d'attente, avant la mastectomie, avant de se faire opérer, on est seul, hein, on est seul face à la maladie, on est seul face au traitement, seul face à la mort. Mais si on est bien entouré, ou entouré comme il faut, on n'est pas seul. On a l'impression d'avoir une sorte de fan club derrière. De fan club, ils sont « Ah, vas-y, tu vas y arriver !» et tout. Et en fait, on part, on est un petit peu plus léger. Et c'est primordial.
Sophie Hoffmann.
Oui, c'est essentiel. Enfin, franchement, moi aussi, j'ai eu la chance d'être vraiment bien accompagnée par ma famille. Ma mère qui me faisait des repas, des lessives. Enfin bon, c'est tout bête, mais c'est vraiment des choses très utiles. Et mon conjoint qui, voilà, a un peu dédramatisé
Damien.
Tout ça. Damien, mon cher Damien. Qui, voilà, au moment où bah, il faut couper ses cheveux parce qu'il commence à tomber... voilà, il a mis de la musique des années 80, il a joué à la coiffeuse, comme ça, pour un peu dédramatiser tout ça. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont... On peut faire ça aussi.
Alexandra Delaune.
Oh ben, c'est tout à fait ça. Elles ont parfaitement résumé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma maman, de manière incroyable, à la maison, qui m'a aidée avec les enfants, avec la lessive, avec tout. Et puis, mon mari, qui était toujours là à me tenir la main... Et même s'il ne sait pas faire une machine ni bien manger, il a appris beaucoup en très peu de temps. Il a vu ma vie de maman et c'était une merveilleuse aventure familiale aussi.
Un conseil à celles qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein, Sophie Hoffmann.
Eh bien, d'y croire et de foncer et d'avoir confiance aussi dans la médecine, parce que c'est vraiment la clé de la réussite, et de continuer ses projets, en fait. La vie s'arrête pas, donc c'est une période difficile, mais il faut continuer à faire des choses, en fait.
Petite précision, si on n'a pas la chance d'être entouré par une famille, par des amis, par un conjoint, on peut évidemment se rapprocher d'une association.
Exactement.
De patients.
Oui,
c'est
oui.
Très important.
Oui,
hein.
Tout à fait. Moi, j'ai une association qui était venue me voir à l'hôpital pour me dire qu'ils étaient là. Et je crois que c'était Vivre comme avant. Merci.
Vivre comme avant.
Et ça m'avait énormément aidé. Donc oui, pas hésiter.
Camille, Charlotte Pascal.
Pardon, j'ai pas entendu.
Charlotte Pascal, le conseil à une femme qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein.
Alors c'est compliqué parce que j'ai surtout dit des choses qu'il fallait pas dire.
Oui, qu'est-ce qu'il faut pas dire ? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? La chose fondamentale à ne pas dire à une femme atteinte d'un cancer.
Alors pour moi, le pire, vraiment le pire avec le recul, c'est est-ce que ça a été pris à temps ? Parce qu'en fait, vous allez à un mariage, vous dites félicitations, vous allez à un enterrement, vous dites toutes mes condoléances. On vous apprend que quelqu'un est atteint d'un cancer du sein, enfin ou d'autre chose. On entend systématiquement,
Ah, j'espère que ça a été pris à temps.
Donc on arrête de dire ça.
Ça c'est
on arrête
de le dire. Voilà.
Et on arrête de dire qu'on a des cas aussi où la personne est décédée.
Bien sûr.
Ça arrive aussi. Hein. Allez, on ne dit pas ça.
Comment aider la recherche, Anne-Vincent Salomon? On peut visiter le site cancerdusein.org notamment.
Absolument.
Cancerdusein.org.
Voilà. Et je crois que soit c'est soutenir effectivement financièrement la recherche. On a plein en France, la recherche est publique beaucoup, donc il y a des soutiens de l'INCa, des soutiens du ministère de la Recherche, etc. Mais néanmoins, les efforts de soutien des initiatives privées comme les partenaires de l'association Ruban Rose, c'est fantastique. En fait, puisqu'on est tous concernés, eh bien, de se dire que la société dite civile soutient la recherche, c'est super.
Sophie Hoffmann, vous avez lancé une cagnotte Ulule pour financer votre podcast de façon indépendante, My Boob Story. Comment on peut vous aider ?
En allant sur Ulule et en tapant My Boob Story. Vous ferez partie de la communauté.
Merci Charlotte Pascal, je recommande vraiment votre livre Ma meilleure amie a un cancer du sein. Merci Alexandra Delaune d'être intervenue dans l'émission.
Avec plaisir.
Merci à vous. Docteur Anne-Vincent Salomon, vous vouliez dire une chose très importante concernant le cancer du sein. Fondamentale.
Ouais, qu'il faut vraiment outre aller faire les mammographies quand on a entre 50 et 74 ans, c'est l'autopalpation.
L'autopalpation.
Faut pas avoir peur de trouver une petite boule dans son sein.
Ça c'est dit. Merci docteur Ophélie Soulier et docteur Anne-Vincent Salomon. Merci à tous.